BW. Vue d'Allemagne.
Bonjour à toutes et à tous. Selon l'Organisation internationale du travail, les jeunes sont les plus durement touchés par les effets économiques du coronavirus. Un jeune sur six a perdu son emploi au cours des derniers mois, un phénomène qui n'épargne pas l'Allemagne. Au Brésil, où la pandémie est encore loin d'être surmontée, la crise sanitaire met en lumière les inégalités socio-raciales. Les patients noirs sont surreprésentés dans le décompte des victimes. Ce sera un reportage de notre correspondante Marine Audacher dans la deuxième partie de ce numéro de Vue d'Allemagne. C'est Anne Touzé au micro, willkommen et bienvenue. Sophie a 23 ans, elle termine des études de sport à l'université de Cologne, dans l'ouest du pays. Il y a 3 mois, elle a emménagé chez son copain à Munich, en Bavière, pour démarrer un stage de 6 mois en marketing dans une entreprise de vêtements sportifs. Mais l'expérience qui devait la préparer à entrer dans la vie professionnelle après sa licence a tourné court.
J'ai commencé mon stage début mars, travaillé jusqu'à mi-avril, et puis l'entreprise a dû malheureusement me renvoyer parce qu'ils ont mis leur personnel au chômage technique et qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'employer un stagiaire en plus.
Sur un peu plus de 2 millions d'entreprises en Allemagne, 750 000 se sont inscrites au chômage partiel en avril suite aux mesures de confinement décidées par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus, avec des conséquences directes sur de nombreux étudiants. 40% d'entre eux ont perdu leur emploi ces derniers mois, selon un sondage de l'agence de recrutement ZenJobs. Sophie aurait dû gagner 1400 euros par mois après les 6 premières semaines de stage. Elle n'a finalement touché qu'une allocation symbolique et se retrouve sans autre revenu que ses économies personnelles. Et pourtant, elle s'estime chanceuse.
J'ai la chance de vivre chez mon copain à Munich et de ne pas avoir de loyer trop cher. Mais si j'avais été en colocation avec une chambre à payer, j'aurais dû rentrer à Cologne chez mes parents parce que je ne pourrais pas me permettre de vivre à Munich sans revenu digne de ce nom, rien que pour le loyer.
Le gouvernement allemand a prévu des aides financières pour les étudiants sous forme de prêts, 650 euros par mois, remboursables au même titre que l'allocation d'études, le BAföG. Mais cette solution ne satisfait pas la Confédération allemande des syndicats. Matthias Hanbuhl est l'expert en politique éducative du DGB.
Nous ne sommes pas du tout convaincus car nous pensons que ceux qui doivent travailler avaient déjà une situation sociale ou financière difficile et dépendaient de cet argent. Ils risquent maintenant de s'endetter et nous trouvons cela très critiquable. Nous aurions souhaité une solution moins bureaucratique et davantage basée sur des subventions.
La situation financière des jeunes diplômés ne risque pas non plus de s'arranger. Les chances de trouver un emploi après les études ont rarement été aussi mauvaises. Sophie, qui prévoit de boucler sa licence cet été, en témoigne personnellement.
J'avais posé des candidatures dans plusieurs entreprises, mais elles ont suspendu le recrutement et n'embauchent plus du tout cette année. Pour mon copain, c'est pareil. Il étudie l'ingénierie mécanique et vu la situation de l'industrie automobile, bref, c'est difficile pour les jeunes d'arriver maintenant sur le marché du travail. La reprise viendra, mais c'est ce qui me cause des soucis en ce moment.
La reprise, c'est ce qu'espèrent aussi les jeunes en apprentissage professionnel. Ils sont actuellement 1,3 million à suivre une formation en alternance en Allemagne. Un programme étalé sur 3 ans et demi pour apprendre un métier et se qualifier. C'est l'un des piliers de l'emploi des jeunes en Allemagne. Grâce à lui, le pays affiche le taux de chômage le plus faible d'Europe pour les 15-24 ans, 5,4% en avril 2020, contre 33% en Espagne et plus de 20% en France. Liam est en formation professionnelle depuis 1 an dans une petite société qui fabrique des climatiseurs à Cologne. Il a eu de la chance car son entreprise n'a pas dû mettre son personnel au chômage technique ces dernières semaines. La crise du coronavirus a toutefois chamboulé le déroulement de sa formation.
Cela a eu des effets sur l'entreprise car on a perdu des clients, mais pour moi, en tant qu'apprenti, ça n'a pas changé grand-chose, sauf à l'école. Normalement, on a cours toutes les 6 semaines pendant 2 semaines, et là, on n'a pas eu école depuis fin février. Et ça va continuer jusqu'à la fin de l'été, il n'y a pas du tout cours d'ici là.
En 2019, 525 000 jeunes ont démarré leur formation, mais les conséquences économiques du coronavirus menacent la prochaine rentrée. Une tendance inquiétante, selon l'expert en politique éducative du DGB, Matthias Hanbuhl.
L'attribution des places d'apprentissage est décidée par les entreprises. Si elles ont été fermées pendant des semaines à cause des restrictions, elles n'ont pas pu exercer leur activité ou qu'elles ont des problèmes de liquidité, alors le nombre de places d'apprentissage risque de diminuer. Et ce sera beaucoup plus difficile pour les jeunes en Allemagne de passer de l'école à la formation. Et cela signifie donc un mauvais départ dans la vie professionnelle.
Selon Matthias Handbull, ce sont surtout les jeunes les moins qualifiés qui sont les plus vulnérables. Même sans crise, il est difficile pour eux de trouver une place en alternance. Leur faible niveau d'études leur laisse moins de choix parmi les métiers et ne leur permet pas de se rabattre sur des études universitaires en cas de refus.
Je pense que les jeunes qui sortent de l'école avec un diplôme d'études secondaires ou intermédiaires sont plus touchés. Ce sont souvent des enfants issus de l'immigration qui avaient déjà de moins bonnes chances avant le corona. Si l'offre de formation professionnelle s'effondre, alors ils auront encore moins de chances.
La situation est aussi particulièrement critique pour les jeunes en fin d'apprentissage. Jusqu'ici, le taux d'embauche après une formation en alternance est de 70 à 75%. Encore faut-il que les entreprises survivent à la crise et que le virus ne regagne pas du terrain. Le problème est assez sérieux pour mobiliser les acteurs politiques et économiques. Fin mai, l'Alliance pour la formation professionnelle, qui regroupe des représentants de l'État, des lenders, de l'industrie et des syndicats, a annoncé un train de mesures pour soutenir les entreprises en difficulté afin de garantir la poursuite du système de formation en alternance et d'empêcher l'émergence d'une génération corona qui ferait grimper le chômage des jeunes et porterait un coup au modèle économique allemand. Vue d'Allemagne, deuxième partie, il y a des courses qu'on ne préférerait pas remporter. Le Brésil est devenu le deuxième pays, juste derrière les États-Unis, en nombre de cas confirmés de coronavirus. Début juin, plus de 30 000 Brésiliens ont succombé au virus. Une crise sanitaire qui met aussi en lumière les terribles inégalités socio-raciales, car les Noirs meurent plus que les Blancs. Et les médecins noirs, très rares au Brésil, n'hésitent plus à montrer comment le racisme et les préjugés peuvent tuer. Écoutez le reportage à Sao Paulo de notre correspondante Marine Audacher.
Il y a à peine un an, la photo de 12 hommes et femmes, noirs, debout, les bras croisés, l'air grave, faisait le tour des réseaux sociaux. Ces jeunes diplômés de l'Université fédérale de Bahia sont tous médecins et c'est la première fois qu'autant de noirs obtiennent leur diplôme la même année. Peu de médecins noirs, mais les patients noirs, eux, sont surreprésentés dans le macabre décombre des victimes du coronavirus. Ils sont 62% des morts, selon le secrétariat de la santé de São Paulo, parce qu'ils sont les plus touchés par le diabète, l'hypertension, l'obésité et vivent dans des conditions plus précaires que les blancs. Au début de la pandémie, l'étudiante en journalisme Victoria Henrique décide de retrouver ses médecins et elle publie un article intitulé « Les médecins noirs en première ligne face au coronavirus » sur le site de Media Ninja.
Je me suis demandé, mais qui sont les professionnels qui s'occupent de cette population? Des médecins, mais quels médecins? Quand on parle de médecine, la représentativité est liée au regard que le médecin pose sur une personne. Je ne dis pas que les médecins blancs ne sont pas professionnels, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Si un médecin a une mère noire ou un père noir et qu'il sait l'importance de l'identification médecin-patient, le regard sur la maladie est différent.
Une affirmation difficile à mesurer, mais les médecins que j'ai interviewés pour ce reportage expliquent tous que la question raciale ne les quitte jamais lorsqu'ils sont face à un patient. Depuis le début de la pandémie, le docteur Mona Lisa Nunes reçoit les malades dès leur arrivée dans plusieurs hôpitaux privés et publics à São Paulo.
Quand il s'agit de la santé, les préjugés racistes sont très dangereux. Par exemple, l'idée selon laquelle le patient noir est plus résistant, que ses symptômes ne sont pas si graves, ou penser que le patient noir ne veut pas aller travailler, parce que ce sont les noirs qui assument les métiers les moins qualifiés, comme les éboueurs, ceux qui travaillent dans les supermarchés. Moi, en tant que médecin noir, je suis moins influencé par le racisme, et parce que le coronavirus tue plus de Noirs au Brésil, à cause des inégalités, c'est plus grave encore. Et puis, je sens qu'avec moi, le patient noir se sent écouté. Il confie davantage sa douleur, sa réalité sociale, parce qu'il voit que je comprends son contexte. C'est difficile à expliquer de façon rationnelle.
Alexandre Freitas est encore étudiant en médecine, il a 20 ans et sera diplômé en 2022. Il fait partie du collectif Negrex qui rassemble 300 médecins et étudiants noirs conscients de leur rôle dans la lutte contre les inégalités socio-raciales. Alexandre sent déjà qu'il est essentiel de s'identifier à la population qu'il prétend soigner et comme il est originaire de l'état du Pará, il compte une fois son diplôme de l'Université fédérale de Rio de Janeiro en poche, retourner au nord du pays.
Je suis de Santarém. Là, il y avait une université, mais je me suis dit que j'aurais une meilleure formation à Rio de Janeiro. Je veux exercer là où les médecins manquent le plus. Je suis de l'état du Pará, comme je vous l'ai dit, et je connais la réalité des habitants. Dans la clinique où je fais mon stage, à Rio, il y a 42 médecins. Dans ma ville, je ne sais pas si on dépasse en tout 100 médecins.
Un manque de médecins hors des grandes villes comme Rio de Janeiro ou São Paulo qui a poussé l'université du Pará à anticiper l'obtention des diplômes de 80 médecins pour qu'ils puissent se battre contre le coronavirus. Dans tout le Brésil, 154 universités ont fait le même choix. Cela concerne 6500 élèves en dernière année car les forces manquent face à l'ampleur de la pandémie au Brésil. Plus de 30 000 morts ces derniers jours et les chiffres ne cessent de grimper de façon vertigineuse. Le docteur Larissa Cassiano est gynécologue à São Paulo. Au quotidien, elle lutte aussi contre les fake news qui poussent certains de ses patients à nier la gravité du virus ou à couper la télévision, source d'angoisse. Mais elle comprend que les patients les moins éduqués, les plus précaires, sont aussi les plus fragiles, ce qui rejoint bien sûr la question raciale.
Je m'identifie aux classes les plus populaires parce que c'est là d'où je viens. Ma mère est infirmière, elle a travaillé dans les hôpitaux publics toute sa vie et je connais bien cette réalité sociale. C'est difficile de parler un langage que les plus pauvres ne comprennent pas. On ne peut pas parler de santé quand cette population vit à plusieurs dans une maison avec deux pièces, sans accès à l'eau courante. Ils doivent continuer à utiliser les transports publics pleins de monde et chez eux, certains sont contaminés. L'isolement social n'est pas possible. Le mari est un travailleur informel, il n'a plus de travail et elle doit continuer à sortir. Que dites-vous à quelqu'un qui doit choisir entre manger et acheter du gel hydroalcoolique ou des masques? C'est très difficile.
Le président Jair Bolsonaro, dès le début de la pandémie, affirmait « Les Brésiliens sautent dans les égouts et personne n'en meurt. Les milliers de victimes prouvent le contraire. La pauvreté tue, surtout quand l'État lui-même veut protéger son économie aux dépens de la santé de sa population. » À São Paulo, Marino Dacher pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !